Vous êtes sur Europe 1 et comme tous les matins, Julia et moi, on va prendre soin de vous. Alors l'une des questions que l'on va se poser aujourd'hui, la voici, l'odorat est-il le plus important de nos cinq sens? Alors si je vous dis ça, qu'en pensez-vous, vous qui nous écoutez? Et vous alors, mon cher Clément Lanoux, bonjour.
Bonjour tout le monde, il est très difficile de préférer un sens ou de se dire celui-là est moins intéressant, moins important. C'est comme les cinq doigts de la main, ils sont hyper utiles. Le pouce pour l'autostop, l'index pour montrer la direction, le majeur pour la révolution, je ne suis pas d'accord et tiens, prends ça. Ouais. Évidemment, l'auriculaire pour les petits secrets et l'annulaire pour le mariage.
Ah, vous l'avez fait dans ce sens-là, d'accord.
Oui, j'ai inversé, j'ai laissé le mariage pour la fin parce que pour l'instant, je ne suis pas concerné. Donc, même question en fait, quel est le sens le plus utile ou le moins utile? Alors déjà, je vais supprimer le goût. Hein. Le goût, on peut ne pas en avoir et vivre très bien. Regardez Donald Trump. Oh, chronique qui balance aujourd'hui. Ouais. Ah, je plaisante, hein, je rappelle qu'il a récupéré Twitter le week-end dernier. Donc je vais rentrer un petit peu, je vais me fâcher avec personne. Non mais c'est vrai que surtout, le goût, c'est évidemment le goût, celui du palais. Le goût quand on sent quelque chose avec la bouche. Moi, j'ai perdu le goût pendant 6 jours. Pendant le confinement, je trouvais ça génial, parce qu'en fait, les courgettes avaient le même goût que le chocolat. Donc, il faudrait être débile pour manger des Kinder Bueno quand on peut manger des courgettes.
Hein. Oui, c'est ça.
Donc, je mets de goût le côté. Maintenant, la vue, est-ce qu'on peut s'en passer? Je pense que c'est très dur. Je pense que, pourtant, quand on est malvoyant, on développe plein d'autres sens, on développe un imaginaire plus vaste.
Ouais, il paraît, hein.
Je pense que, voilà, c'est pour ça qu'on aime d'ailleurs se faire bander les yeux au lit.
Pardon,
je me livre beaucoup trop. Oui, c'est parce qu'on a eu, si vous voulez tout savoir, mardi, vous pourrez écouter en podcast, une émission sur le plaisir masculin, ça m'a complètement chamboulé. Bref, non, revenons justement à la vue, c'est vrai que malvoyant, on peut développer peut-être un côté artistique. Il y a plein de chanteurs, par exemple, qui sont aveugles, ouais. Énormément, alors qu'on en a très peu qui sont sourds et muets. Voilà, c'est pour ça. Donc justement, alors Louis, peut-on s'en passer? Louis, avec le nombre de bêtises qu'on entend chaque jour et des débats stériles dans l'actualité, je vous assure que parfois, ne pas entendre, ça fait du bien, mais ce serait catastrophique pour nous, radio, ouais. Médias, ah ouais. C'est-à-dire que si tout le monde devient sourd, là, au niveau audience, on n'a plus de travail, c'est clair. Donc, on va passer au toucher. Le toucher, oh, le toucher, je l'adore. Mmh. Il permet de tisser des liens affectifs plus facilement, un toucher amical, bienveillant, ça stimule les protections d'oxytocine. J'ai bossé, c'est l'hormone de l'amour qui favorise du coup les liens sociaux. Ça aide à construire un lien de confiance. Et puis le toucher, c'est important. Ah, c'est l'émission de mardi qui me perturbe encore. Voilà. Non, le toucher coulé. Ah, si oui. On supprime le toucher, on va l'appeler quoi? Le coulé? Non, on ne peut pas le supprimer. Et donc, on arrive à l'odorat. Alors, l'odorat, est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas. C'est vrai que sentir du hareng, des choux de Bruxelles, ou même un collègue qui est venu à vélo, qui habite à 30 bornes, qui a pris 8 cafés, qui transpire et qui parle très, très proche, c'est vrai que ce n'est pas fou. Mais c'est d'un autre côté magique de sentir l'herbe fraîchement coupée, le linge propre, une fleur, une inconnue qui passe dans la rue. Donc, non, je pense que je pourrais pas m'en passer. Ce sens est primordial. On adore sentir les gens, on dit sentir des gens, on est comme des animaux, on a besoin de se renifler, enfin pas toutes les parties du corps, enfin ça dépend des moments. Oh là là, décidément cette émission de mardi. Bon, écoutez, je vous laisse la place, en tout cas, moi personnellement, j'adore mes cinq sens.
Et oui, merci beaucoup Clément Lanoux pour cette chronique à bien poser le sujet. Et bien voilà, ça c'est fait. On va maintenant donner quand même la parole aux vrais experts sur ce sujet. D'abord, vous Bruno Fourne, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chargé de patrimoine culturel et artistique et vous êtes accompagné en studio aujourd'hui par Annick Le Guéret, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, Annick, vous êtes anthropologue, philosophe et spécialiste de l'odorat. Et donc tous les deux, vous êtes les co-auteurs du livre Le Parfum et la voix parue chez Odile Jacob. Alors Annick, vous êtes donc spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum. Voilà. Est-ce que l'odorat est un sens qu'on a, nous, tendance à sous-estimer?
Bien, l'odorat a été très très longtemps sous-estimé, pendant des siècles, parce qu'il passait pour un sens archaïque, animal, qui n'apportait pas beaucoup de connaissances, contrairement à la vue et à l'ouïe qui passaient pour des sens nobles, intellectuels. Et la revalorisation de l'odorat, à part quelques philosophes comme Nietzsche qui proclamait « tout mon génie est dans mes narines », la revalorisation de l'odorat est très récente. Quand j'ai écrit mon premier livre « Les pouvoirs de l'odeur », qui est paru en 88, l'odorat était encore un sens méprisé.
Annick, vous, avant de vous pencher sur les liens entre l'odorat et la voix, on va y venir bien sûr, vous vous intéressiez aux relations entre le parfum et la musique, c'est bien ça?
Exactement.
Alors expliquez-nous un peu ce lien rapidement parce que c'est assez abstrait pour nous.
Eh bien, j'avais trouvé un texte d'un parfumeur du 19e siècle qui s'appelle Septimus Piès et qui avait établi des correspondances entre les notes musicales et les notes olfactives. Et il prétendait aussi que le son renforçait le nerf olfactif. Et à partir de ce texte, je me suis intéressée au lien entre la musique et le parfum.
Alors, on le sait, hein, dans l'industrie du parfum, on appelle les experts les nez, ceux qui ont un odorat hyper développé. Et vous, Bruno Fond, vous seriez plutôt une oreille. Vous avez cette capacité à reconnaître et mémoriser des milliers de voix. Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai en moi un corpus de voix pratiquement infini. Et ce ne sont pas des voix, dans l'absolu, ce sont des voix précises sur 50, 60 ans, 70 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pourrais parler des voix de Marlène Dietrich, par exemple, ou des voix de Jeanne Moreau. Donc ça va encore plus loin qu'on imagine.
Vous avez écrit un livre tous les deux sur les liens entre le parfum et la voix. C'est vrai que c'est assez inattendu comme thème, mais pourtant ces deux sens, donc l'ouïe et l'odorat, sont vraiment liés. On va y revenir en détail, mais elles ont vraiment beaucoup de choses en commun. Lesquelles, par exemple ?
La voix et le parfum ?
Oui. Oui.
Eh bien, la voix et le parfum ont des choses, ont beaucoup de correspondances et de liens, comme tous deux, d'ailleurs, nous échappent.
C'est volatile, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. On n'est pas conscient ni de notre voix, ni de notre odeur personnelle. Elles s'échappent dans la sphère sociale, elles viennent de l'intime du corps et s'échappent dans la sphère sociale. Elles s'imposent aux autres, parce que quand vous entendez une voix, elle s'impose à vous sans que vous l'ayez demandé.
Oui.
Un parfum, même chose. Nous n'avons pas de paupières qui nous ferment le nez et qui nous ferment les oreilles. Et la voix comme le parfum sont révélateurs de notre identité. On a une odeur propre, comme on a une voix propre qui nous distingue des autres. Et voix et parfum sont aussi révélateurs de l'inconscient. Très révélateurs de l'inconscient. Et on le voit bien chez les psychanalystes. Certaines études qui ont été faites, on en parlera peut-être plus tard. On voit bien combien maintenant les psychanalystes commencent à prendre en compte la voix et le parfum dans les cures psychanalytiques.
Très bien, je sens que ça va être passionnant. Vous restez avec nous et vous qui nous écoutez, faites de même et gardez bien vos oreilles ouvertes car sur Europe 1, on vous propose ce matin une thématique étonnante et sensorielle. La voix et le parfum, l'ouïe et l'odorat sont bien plus liés que vous ne l'avez imaginé, jamais. On vous ouvre les portes d'un monde olfactif et auditif inédit ce matin, alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre, on vous propose un magazine très sensoriel ce matin, toujours accompagné par Bruno Fourne et Annick Le Guéret, tous les deux co-auteurs du livre Le Parfum et la Voix, paru chez Odile Jacob. Alors Bruno, vous êtes synesthète, c'est bien ça ?
Mais sur le tard, c'est ça qui est intéressant.
Mais qu'est-ce que c'est déjà, la synesthésie ?
C'est le fait d'avoir une information olfactive quand on entend une voix.
Par exemple, donc vous entendez, je ne sais pas...
Par exemple, c'est arrivé quand j'ai écouté Annick Le Guéret à la radio et que je me suis mis à sentir un parfum très particulier. Et j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul, loin de là.
Alors apparemment, Bruno, vous associez la voix de France Gall ou de Carla Bruni. On écoute un petit extrait de France Gall, tiens.
Que chacun se mette à chanter.
Donc cette voix de France Gall qu'on connaît tous, vous l'associez donc à une odeur fraîche d'agrumes, c'est bien ça ? Il y a des notes de voix dans les parfums ?
Bien sûr. Et là, dans le cas de France Gall, c'est du citron pur, je dirais même.
Et pour Carla Bruni, c'est pareil ?
Tout est question de dosage. Il y a des aspérités, je rajouterai peut-être un peu de floral, mais c'est quand même pour moi aspérité. Mais dans le cas de France Gall, c'est du citron.
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout.
Alors, vous êtes un spécialiste, mais est-ce que vous pensez qu'on peut s'entraîner à sentir et à entendre les mêmes choses que vous ? Ou c'est quelque chose d'inné et ça ne nous arrivera jamais ?
Je crois que c'est inconscient et je crois que j'ai vécu une expérience clé. Et une expérience clé qui a ouvert quelque chose dans mon cerveau. Et qui a fait que j'ai pris conscience de ça.
Cette expérience était avec Annick. Vous parlez de cette expérience-là.
C'est ça qui est extraordinaire.
Et là, donc aujourd'hui, on est quand même à la radio. Julia et moi, on travaille avec cette voix.
Oui.
Vous avez déjà étudié nos voix, vous nous l'avez dit en préparant l'émission.
Oui,
et d'ailleurs,
beaucoup.
Apparemment, on a un peu la même odeur de voix avec Julia.
Exactement. Oui.
C'est quoi ? Qu'est-ce que ça donne chez Julia ?
Je m'intéresse beaucoup aux voix d'Europe 1. Ce n'est pas du tout par flagornerie, c'est le cas. Les voix de la matinale... Jusqu'à vous, je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Il y a comme une signature vocale et olfactive sur Europe 1 le matin.
Et ça sent quoi alors ?
Vous voulez vraiment savoir, Mélanie?
Non, mais je me demande une signature olfactive, mais qui va
sentir
quel détail.
Déjà, vous appartenez à la même famille de voix pour moi. Mm-hmm. À mes oreilles, vous appartenez à la même famille de voix. Et pour moi, ce sont des floraux également, mais avec un dosage différent.
Et dites-moi, je sais que Mélanie, elle porte Chance de Dior en termes de parfum. Oui. Moi, par exemple, souvent, pas tout le temps, mais Fleurs d'Oranger de Serge Lutens. Est-ce que
on a bien choisi
par rapport à nos voix? Est-ce que ça...
Là, il faudrait poser la question
Annick,
à Annick.
Que... Je trouve que moi, je pense que ça convient. Oui. Oui. Il n'y a pas de discordance entre votre voix et votre parfum.
Ça vous arrive de sentir des gens qui vraiment n'ont rien à voir avec leur parfum?
Bien sûr. Et les otorhinolaryngologistes, les orthophonistes sont très sensibles aux discordances entre la voix de leurs patients et les parfums qu'ils portent. Ils parlent notamment de femmes qui ont des voix très, 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 très graves parce qu'elles ont des nodules sur les cordes vocales et qui portent des parfums hespéridés, très limpides, qui ne correspondent pas du tout à leur voix. Ou des femmes, justement, qui ont des voix fluettes et qui portent des parfums opulents.
Alors justement, dans le livre, vous écrivez à propos d'une autre des voix célèbres d'Europe 1, Christophe Ondelat, que l'on retrouve tous les jours, bien sûr, à 14h sur Europe 1. Et vous dites, le concernant, ce sont les arômes des carottes de tabac du Pérou qui sont repérables dans la voix de ce journaliste.
C'est précis.
C'est quoi, Bruno? C'est l'aspérité de sa voix qui vous fait dire ça? Vous allez me répondre, mais attendez, on va écouter quand même un extrait de la voix de Christophe.
Je vous raconte aujourd'hui, en m'appuyant notamment sur Voir un ami volé de Jean Liardon et Arnaud Beda, qui sera là tout à l'heure, les 10 dernières années de la vie de Jacques Brel. Une période méconnue qui commence quand en octobre 1966, au sommet de sa gloire...
Julia est subjuguée, presque amoureuse, mais
qu'est-ce que... de Christophe Ondelat, de sa voix et puis évidemment de ses histoires. Qu'est-ce qu'on peut dire alors?
Ce qui est très étrange, c'est que j'ai un ami qui est rentré du Pérou et qui rapportait du Pérou des carottes de tabac. Je ne sais pas si vous en avez vu, je crois qu'on n'en fait qu'au Pérou. Ce sont des feuilles de tabac qui sont enroulées.
Et qui sentent Christophe Ondelat. La voix de Christophe Ondelat.
Eh bien, en les sentant, j'ai entendu la voix de Christophe Ondelat. Mais vous savez, quand on lira le livre, on verra que c'est une expérience très commune. Hein.
Ah oui.
Il y a une page de Rousseau où il décrit le comportement d'un de ses héros, Saint Preux, dans la Nouvelle Héloïse, qui, à force de sentir le parfum de sa maîtresse, sur ses draps, se met à entendre sa voix.
Oui.
Et là, dans le cas de Christophe Ondelat, quand j'ai senti ces carottes de tabac, j'ai pensé à la voix de Christophe Ondelat.
Dites-moi, Annie, quand on entend cette expérience de Bruno, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur ce sujet pour expliquer ce phénomène? Est-ce qu'on sait si le parfum et la voix stimule la même partie du cerveau, par exemple?
Eh bien, les recherches scientifiques commencent à être faites. Notamment en 2010, deux chercheurs américains ont montré une corrélation audio-olfactive. Les mêmes neurones sont sensibles au son et à l'odeur. Donc, vous voyez, c'était les premiers travaux qui montraient cette corrélation audio-olfactive, très, très importante. Leurs travaux ont été repris par une biologiste française qui a soutenu une thèse sur le son de la rose. Le son de la rose.
C'est dingue.
En 2016, à Saclay, et où elle travaille aussi sur cette corrélation audio-olfactive.
Annick, Bruno est synesthète. On a compris qu'il était quand même particulièrement sensible, même s'il nous dit qu'on est nombreux à ressentir ce genre d'expérience. Est-ce qu'on sait combien de personnes en France ou dans le monde sont synesthètes, ou en tout cas ont vraiment une finesse comme ça de l'ouïe en lien avec l'odorat?
Alors, d'après les études qui ont été faites, et il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faudrait que ce soit encore complété, il y aurait 1% à 4% de la population en France qui serait synesthète. Mais ce dont on parle beaucoup dans le livre, ce sont ces associations métaphoriques, c'est-à-dire des constructions intellectuelles, ce croisement de ces deux sensations complètement différentes, audio et olfactive, et on les trouve en abondance dans les littératures, dans les mythes, dans les religions. On trouve ça par exemple chez Alexandre Dumas, lorsqu'il dit qu'il était impossible de savoir si les parfums avaient des voix ou si les voix avaient des parfums. Donc il y a des milliers, des milliers, des milliers d'exemples
qui
renforcent justement cette synesthésie naturelle qui commence uniquement à être étudiée aujourd'hui.
Eh bien, merci à vous deux. Vous ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques instants. D'ailleurs, vous, quand vous entendez une voix, qu'elle soit suave, grave, chantante, est-ce que cela vous procure d'autres sensations dans votre corps et dans votre tête? Est-ce que ça met d'autres de vos sens en éveil? On y revient dans le détail dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Merci d'écouter Europe 1. On est toujours en train de s'intéresser aux liens entre nos différents sens, des liens soupçonnés, par exemple entre notre ouïe et notre odorat. On décortique toujours ce sujet sensoriel avec Bruno Fourne, chargé de patrimoine culturel et artistique, synesthète, et Annick Le Guéret, anthropologue spécialiste de l'odorat. Ils sont tous les deux les co-auteurs du livre Le parfum et la voix, paru chez Odile Jacob. Alors Bruno, c'est ainsi que vous décrivez dans le livre la voix de la chanteuse Dalida, fruitée, orangée, notes de fraise, d'abricots, de miel et de fruits secs. Là, on n'est même plus dans l'odorat, on est dans le goût. Hein. C'est incroyable cette description. Peut-être on va écouter un petit extrait de Dalida.
D'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se raviait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude.
Donc là, ça va très fort, hein. C'est très fort ce que vous ressentez quand vous entendez Dalida.
Oui, alors surtout dans Parole, vous voyez. Quand je parlais de clés tout à l'heure, il y a des tons qui sont des clés pour moi. Et surtout chez Dalida, et surtout dans Parole. Mmh. Et il y a un document bouleversant d'Orlando qui avait retrouvé miraculeusement les bandes de l'enregistrement de Parole, justement. Et voilà. Il se trouve qu'on entend aussi Dalida en off. Et là, il se met à dire, c'est tellement bouleversant d'entendre sa voix. Alors, il a passé son temps à entendre sa voix, mais comme elle parlait en off, la voix prenait une autre dimension. Annick a écrit les pouvoirs de l'odeur. Là, on pourrait parler des pouvoirs de la voix également. Là, c'est très frappant dans le cas de Dalida. Effectivement, dans Parole, elle a une voix parfumée.
D'ailleurs, Annick, est-ce que ça existe, la synesthésie entre l'ouïe et le goût ou la vue?
Bien sûr qu'il y a des synesthésies audio-visuelles, bien sûr. Il y a des synesthésies audio-gustatives, mais elles sont moins... La synesthésie audio-gustative est comme la synesthésie audio-olfactive encore moins étudiée.
Mmh, oui.
Mais il y en a. Parce que synesthésie, ça vient du grec syn, avec, et esthésie, sensation. C'est le croisement de deux sensations. Mmh. Ou de plusieurs sensations.
Donc on peut toutes les croiser, a priori.
On peut toutes les croiser.
Alors on a beaucoup parlé de l'odorat ce matin et de son lien avec l'ouïe, mais que se passe-t-il quand on perd ce sens? Bonjour Caroline Bigot.
Bonjour.
Alors vous êtes anosmique, c'est-à-dire que vous avez perdu l'odorat. Vous, ça a été à la suite d'un traumatisme crânien causé par un accident. Comment vous vous êtes adapté à la situation? Ça doit être déstabilisant de perdre d'un coup l'un de ses sens, surtout que vous aviez, je crois, un odorat très développé.
Oui, tout à fait. C'est un quotidien particulier. Pour moi, c'était un sens précieux, en fait, l'odorat. Ça me guidait quand je rentrais dans une pièce. L'espace, les personnes qui m'entouraient, c'était vraiment un guide, un repère très, très fort. Donc, votre quotidien, il change énormément, puisque du coup, il faut se réorganiser, s'adapter pour vivre différemment. Donc un peu la vue, de l'ouïe, le toucher.
Et je crois en plus...
On essaye de développer d'autres sens.
Caroline, que vous avez perdu le goût, c'est ça, également en même temps? Ça doit être terrible, ça, non?
Oui, tout à fait. En fait, quand vous perdez l'odorat, vous perdez également le système de la rétro-olfaction. Donc les molécules odorantes, quand vous sentez par exemple une fleur, ces molécules peuvent également passer par l'arrière de la gorge et être captées par le nez. Donc quand on est anosmique, on perd également les saveurs. Donc aujourd'hui, je n'ai que la perception du sucré, salé, amer, acide, umami, le chaud, le froid, le craquant, l'onctueux, le piquant aussi.
On se pose la question parce qu'on parle depuis tout à l'heure de ces sens qui se croisent. Alors vous en avez perdu un. Est-ce que vous avez l'impression que vos autres sens sont plus développés, peut-être pour compenser? Vous parliez effectivement de la vue quand vous rentrez dans une pièce ou du toucher ou même votre ouïe, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une compensation de ce côté-là?
Alors moi, ça fait seulement 2 ans. Je n'ai pas l'impression que ma vue ou mon ouïe se soit améliorée, mais par contre, oui, le toucher est très important pour moi. Ma petite fille, du coup, qui est née après mon accident, je la regarde beaucoup, je lui fais plein de câlins, plein de bisous. J'essaye.
Vous compensez.
Exactement. Je compense beaucoup par les câlins, les bisous.
Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour votre intervention. Merci. Bruno, dans le livre, vous dites que la voix et le parfum, l'ouïe et l'odorat ont un autre point commun. Elles sont toutes les deux liées à la sensualité, à l'érotisme. Ce sont deux stimulants sexuels, on pourrait dire. Comment vous pouvez nous expliquer cela ?
Il suffit d'écouter la voix de Marilyn Monroe.
Hein. Ouais, elle n'avait pas que la voix, Marilyn.
Ou celle de Marlene Dietrich.
Qui n'avait pas que la voix non plus.
Non, qui n'avait pas que la voix. Mais il y a des gens qui n'ont pas un physique de star et qui ont une voix extrêmement troublante.
Hein. Annick, on apprend aussi dans le livre que les cordes vocales des femmes et l'utérus des femmes ont un cycle hormonal qui serait synchronisé. En fait, la voix des femmes se modifierait au cours du cycle menstruel, c'est bien ça ? Comment ça marche ?
Il paraît que la voix subit des modifications durant le cycle menstruel, ce qui explique d'ailleurs que les cantatrices, au XIXe siècle encore, ne chantaient pas deux jours avant leurs règles et pendant la période de leurs règles.
Ah oui.
Et Havelock Ellis, un naturaliste du XIXe siècle, prétendait aussi que les fleurs que les cantatrices accrochaient à leur corsage avaient un effet sur la voix et modifiaient leur voix. Et la fleur qui était la plus hostile à la voix était la violette. Il ne fallait surtout pas porter de violette. D'accord. Donc on voit l'interaction du parfum et de la voix.
C'est dingue.
Aujourd'hui, les cantatrices ne s'arrêtent pas de chanter durant leur période menstruelle. Mais on voit bien que la voix, l'odeur, le parfum ont des liens très très forts avec la sensualité, la sexualité.
Et nos hormones,
les hormones, parce que la voix est modifiée par les hormones, bien sûr.
Bruno, est-ce qu'on peut aimer une personne, mais pas son parfum, son odeur ? Est-ce que ça, c'est possible ?
Oui,
de la trouver
sûr.
Tout à fait attirante, mais vraiment la voix, pas terrible.
Impossible.
Ils sont pas d'accord.
Impossible.
Pourquoi impossible selon vous ?
On peut pas aimer une personne si on n'aime pas sa. Si on n'aime pas sa voix.
Ah oui,
c'est
sûr,
comme l'odeur. Oui. C'est comme l'odeur. C'est parce que voix et parfum, c'est la marque de l'identité de la personne. C'est quelque chose qui lui est tout à fait propre. Si vous n'aimez pas la voix d'une personne, vous ne pouvez pas l'aimer.
Bon,
mais en
bien.
Revanche, vous pouvez être troublé par la voix de quelqu'un que vous n'aimez pas.
Bon, et nous, on espère en tout cas que vous qui nous écoutez, vous aimez notre voix tous les matins. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous deux pour cet éclairage sur ce sujet étonnant. Pour en savoir plus, je rappelle votre livre à tous les deux, Le parfum et la voix, une rencontre inattendue parue chez Odile Jacob. Merci encore à tous les deux.
Merci
Julia, il se passe quoi ensuite dans l'émission ?
Eh bien, on va retrouver à présent nos bienfaiteurs. Avec Hakim, on va voir comment faire du gainage efficacement pour avoir le ventre plat et être en meilleure santé. Et puis, comme tous les vendredis, on va retrouver Perla Servan-Schreiber, elle a mis un curry de fruits au menu aujourd'hui. Donc si vous êtes gourmand, je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.